Un dragon dans mon jardin, l'émission qui coasse.
Pour recenser les amphibiens du département, le CPIE du Rouergue lance une opération à vie de recherche.
Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique, Radio Temps et CFM Radio se joignent au projet.
Avec l'émission Un dragon dans mon jardin, partez à la découverte de créatures inconnues ou mal connues. Les amphibiens.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Un dragon dans mon jardin, une émission qui vous dit tout, ou presque, sur les batraciens de nos régions. Au sommaire de cette troisième émission, Mars et Lavogne, un entretien avec Nicolas Deruy, animateur au CPIE du Rouergue. Et en fin d'émission, retrouvez notre jeu avec une nouvelle devinette. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Nicolas Deruy, animateur au CPIE du Rouergue. Bonjour.
Bonjour.
Alors ensemble, nous allons parler des mares et Lavogne, de leur entretien, de leur préservation et des dangers qui les menacent. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces biotopes.
Oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Les naturalistes, entre autres, ont de plus en plus de passionnés d'animaux, de flore, d'invertébrés aquatiques, qui trouvent vraiment leur bonheur dans l'étude de ces points d'eau. Alors, on ne peut pas considérer une mare comme une zone humide. Bon, une mare, on considère une mare en dessous de 1000 mètres carrés. Une zone humide, en général, c'est un peu plus important.
Plus étendu.
Et on a un phénomène aussi qu'on n'a pas systématiquement sur les zones humides, c'est qu'on a toujours de l'eau close, c'est-à-dire des eaux qui ne circulent pas, qui sont piégées. Même s'il y a une entrée, une sortie, on ne se retrouve pas dans le même état de configuration qu'une rivière, par exemple, qu'un ruisseau, ni que ce qu'on peut trouver en bordure de rivière ou de ruisseau. Donc on a des espèces qui sont conditionnées aussi pour vivre dans des eaux closes, avec un renouvellement d'eau plus ou moins important, mais en général ce sont des eaux stagnantes, et le renouvellement se fait spontanément, évaporation par la chaleur du soleil et entrée d'eau par le ruissellement. Donc on a des conditions sur l'année très différentes par rapport aux zones humides en général où on va trouver beaucoup de plantes, des petits points d'eau, des petits marigots. Une mare, c'est vraiment spécifique à des eaux closes. Sur les grands courses, on appelle ça des lavognes, c'est quasiment systématique. Les lavognes sont des mares en fait aménagées, hein, qui sont pavées pour éviter aux troupeaux de transpercer les couches imperméables d'argile. Donc elles étaient pavées anciennement, elles étaient toujours entretenues régulièrement, parce que naturellement une mare a une vie propre, elle a tendance à se combler naturellement par des apports de végétaux et par des apports aussi de déjection animale comme les brebis. Donc pendant tout le temps d'exploitation de ces mares qui ont disparu essentiellement suite à l'exode rural, à des prises agricoles et à l'arrivée d'eau potable, c'est le cas par exemple sur l'Écosse, anciennement elles étaient entretenues très régulièrement puisque c'était un point d'eau qui servait en priorité à abreuver le bétail. Bon, actuellement elles ont aussi un rôle pour le bétail au passage sur les parcours, mais c'est essentiellement important par rapport à la biodiversité qu'elles peuvent renfermer, entre autres des espèces très très sensibles qui ont disparu de nombreuses régions de France suite à l'abandon de points d'eau ou à l'assèchement de points d'eau volontaires. On estime que depuis 1900, il reste à peu près 10% des mares qui sont encore présentes en France, ce qui représente très très peu de surface. D'autant que celles qui sont actuellement encore en état finissent tout doucement par se combler, hein, par manque d'entretien.
Est-ce qu'on peut considérer qu'une lavogne, c'est une mare aménagée par l'homme ?
Oui, tout à fait. Oui, alors l'homme, depuis le néolithique, hein, depuis qu'il est présent dans l'Aveyron, a repéré, enfin, on peut se mettre à sa place, repérer des endroits où il a remarqué que l'eau stagnait, hein, qu'il y avait des ruissellements naturel qui faisait en sorte que l'eau venait se stagner sur des fonds de cuvette, par exemple. Ensuite, il a constaté aussi que quand on damait le sol, l'eau restait plus longtemps. Il a constaté aussi que l'argile, ça fait depuis sûrement des dizaines et des centaines de milliers d'années qui sait que l'argile est une matière imperméable, donc il y a eu des apports volontaires d'argile avec du damage fait probablement au départ directement avec des rondins de bois, mais ensuite entretenu régulièrement comme ça se faisait à l'Écosse par du bétail. Ou pendant l'été, quand on avait des eaux assez basses dans les mares, voire des mares complètement à sec, on faisait passer le bétail, tourner les bœufs pour bien concasser, bien damer ces couches d'argile. Les lauzes sont probablement arrivées après, ou les ardoises, suivant où on se trouve dans l'Aveyron, pour éviter justement que le bétail, quand l'argile est humide, vienne transpercer avec ses sabots ces couches relativement fines d'argile. Mais il y avait un entretien régulier. Alors on trouve encore quelques mares, voire des mares qui sont complètement à sèche, parce que cet entretien ne se fait plus, ce damage lié au bétail, et on va trouver encore des planches sous les remblais qui correspondaient à la surface maximum de grattage, on peut dire. Il fallait nettoyer les limons qu'on trouvait au fond des mares pour les rendre beaucoup moins vaseuses, et on mettait une planche, on en trouve encore, mais ça se conservait relativement bien, et dans l'argile et dans l'eau, des planches qui permettaient d'éviter de creuser trop profondément sur les couches d'argile. Mais chaque petit village, en général, avait une mare communale et des mares qui étaient privées. Il y avait d'ailleurs des négociations, voire des paiements qui étaient faits sur les transhumances ou où certains troupeaux revenaient monter du Languedoc, étaient payés un droit d'abreuvage du bétail sur des terrains privés, des mares privées. C'était vraiment indispensable pour abreuver le bétail. Bon, savoir qu'une vache boit minimum 30 litres d'eau par jour, une brebis boit entre à peu près 5 litres d'eau par jour, ça dépend si elle allait ou non.
Il y a des risques qui pèsent sur ces mares et la vogne, il y a donc nécessité de les préserver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'entretien de ces points d'eau?
Alors l'entretien, naturellement, une mare ou un point d'eau, on peut en trouver des naturels, on trouve des conques, on trouve des fonds de vallon avec de l'eau qui stagne, elle finit par se combler naturellement, uniquement par l'apport de feuilles mortes, de branches mortes, qui se déposent au fond, qui se transforment par décomposition en terre, et tout doucement, cette mare finit par se combler. Alors il y a un nettoyage à faire, on peut pas dire annuel, mais au moins tous les 4-5 ans, essayer de racler le maximum sans toucher à la couche imperméable, que ce soit maintenant sur les bâches plastiques que l'on met pour réaliser des mares d'agrément surtout, que ce soit aussi sur l'argile naturelle. Donc il faut faire attention de ne pas crever cette couche d'étanchéité et enlever le maximum de sédiments. Il y a autre chose à faire aussi, c'est de tailler les arbres tout autour de la mare pour éviter que naturellement les feuilles mortes tombent dedans. Alors quand on construit une mare, il faut faire attention à ce genre, ou un point d'eau, faire attention à ce genre de problème, c'est-à-dire pas. C'est intéressant d'avoir des petites haies, parce qu'une mare, c'est important d'avoir des parties ensoleillées et des parties à l'ombre, essentiellement pour l'été, pour que les animaux puissent se réfugier un petit peu à l'ombre quand il fait très chaud. Mais il ne faut surtout pas avoir des mares ceinturées totalement d'arbres, d'arbustes, ce qui va provoquer, par les branches mortes et les feuilles mortes, tout doucement un atterrissement de la mare, c'est-à-dire la terre qui finit par se former et combler ce point d'eau.
Voilà, il y a des éléments à prendre en compte, par exemple quand on veut créer un point d'eau, parce que c'est le cas de beaucoup de particuliers, de gens qui ont un petit peu de terrain, qui ont envie d'avoir un point d'eau dessus.
Tout à fait. Alors, faut se mettre à la place d'un amphibien ou d'un invertébré aquatique. Il a besoin de quoi? Moi, déjà d'accès à la mare. Il a besoin aussi, avant de construire la mare, d'avoir une structure de paysage relativement variée avec des caches. Un amphibien n'est pas en permanence dans l'eau. Il va dans l'eau pour se reproduire. On va trouver les têtards ensuite. Mais l'amphibien, une fois qu'il se reproduit, à part de rares espèces, va sortir de l'eau et a besoin d'endroits pour se camoufler, pour rester au frais pendant pendant les périodes de chaleur, pour rester au chaud pendant l'hiver aussi, les endroits vont hiberner, c'est-à-dire des pierres, des murets, des haies qui sont importantes, hein, une structure de paysage à respecter tout autour de la vogne ou d'une mare, pour, en tout cas quand on la crée, pour faire en sorte qu'elle puisse accueillir le maximum d'amphibiens. Ce qui se fait rapidement, hein, au bout de 2-3 ans, quand on a des mares relativement bien conçues, on est sûr d'avoir des amphibiens qui vont venir se reproduire. Bon, suivant les espèces, hein, bien sûr, mais ce n'est pas à peine d'importer non plus des amphibiens, ce qui est strictement interdit d'ailleurs, d'aller pêcher les amphibiens, de transporter. Ils vont venir par eux-mêmes si le site leur convient. Alors ça veut dire déjà un accès relativement en pente douce, pour pouvoir accéder, c'est le cas par exemple, mais c'est plutôt pour des mares où il y a un renouvellement d'eau, pour les salamandres qui ne savent pas nager, curieusement, elles déposent des larves et elles ressortent aussitôt. La vie de salamandre est aquatique pendant sa période donc larvaire, mais sinon elle reste tout le temps à terre. Une salamandre, si elle tombe dans un bassin, c'est sûr qu'elle va se noyer très très rapidement, elle n'est pas conçue pour la nage. Et il va falloir aussi que les jeunes amphibiens, quand ils vont se métamorphoser de têtards à adultes, puissent aussi sortir de la mare sans trop de difficultés. On observe beaucoup de pièges, des points d'eau, des bassins avec des murs verticaux, avec de véritables charniers au fond, des amphibiens qui viennent se reproduire, qui ont l'impossibilité de ressortir. Des amphibiens viennent pondre, mais sont incapables de ressortir naturellement. Donc des pentes douces, et prévoir aussi une fosse relativement profonde pour justement la période de sécheresse, pour que puisse se trouver en profondeur de l'eau fraîche et de l'eau en permanence, même quand la mare est quasiment sec. Ils auront un point d'eau pour pouvoir attendre le réapprovisionnement naturel par la pluie de remonter tout doucement de cette nappe d'eau.
Un dragon dans mon jardin.
Est-ce qu'il y a une chronologie dans la colonisation d'une mare ou d'une lavogne par les amphibiens ? Est-ce qu'il y a des espèces qui apparaissent en premier, qui sont suivies par d'autres ?
Oui, on a le crapaud commun, d'ailleurs, je ne sais pas si on a déjà été traité dans ces émissions, mais le crapaud commun a changé de nom. Hein, il s'avère que dans la France, on a deux espèces de crapaud commun maintenant, le crapaud spinosus qu'on trouve dans le sud, c'est celui qu'on a ici, hein, le crapaud commun au nord de la Loire. C'est vraiment l'espèce typique qui s'adapte à énormément de situations. Ensuite, on a le crapaud coucheur, l'alita coucheur aussi, qui est bien présent, qui arrive spontanément. Et les tritons aussi, le triton palmé, hein, qui arrive très facilement, très rapidement sur les points d'eau, dans la mesure où, toujours pareil, il y a des abris et certains... Ils peuvent venir d'assez loin, de plusieurs kilomètres, mais ils font pas ça dans une nuit, donc il faut conserver des haies, conserver des vieux tas de pierres, des murets, voire pourquoi pas des tôles, hein, on observe ça des fois, quelques dizaines de mètres d'une mare ou d'une lavogne, une tôle ondulée, on soulève, on trouve 5-6 crapauds dessous qui attendent la période de reproduction ou qui viennent se réfugier là pendant l'hiver, ou comme le crapaud coucheur pendant la période où ils ont les œufs sur le dos.
Et dans le cas de la remise en eau d'une mare ou d'une lavogne qui aurait été délaissée, abandonnée, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?
Alors, le problème, ça va être déjà de comprendre comment fonctionne l'hydrologie sur cette mare, d'où c'est que vient l'eau ? Effectivement, est-ce que c'est une nappe qui remonte occasionnellement ? Est-ce que c'est que du ruissellement ? On se rend compte que la plupart des mares, quand on n'a pas d'apport lié à des petites sources ou à des nappes, sont situées en fond de route, c'est-à-dire que les mares se remplissent par le ruissellement directement sur les chemins. On trouve même sur les vieilles lavognes des bassins de rétention pour éviter, juste avant... des canaux d'amener d'eau directement de ces routes, des bassins de rétention pour conserver les pierres, les graviers, la terre, pour faire en sorte que l'eau ressorte de ces bassins beaucoup plus propres. Ensuite, il faut donc étudier ça, ou alors c'est du ruissellement direct. Et ensuite, il faut voir l'étanchéité. Alors, si c'est déjà une mare existante qui fuit, il va falloir effectivement tout nettoyer et reboucher les fentes. Alors, ça se fait où avec de l'argile ? On peut faire avec des bâches plastiques aussi. Hein. Le problème, c'est que c'est relativement cher et que c'est pas très naturel. Bon, c'est très étanche, hein. C'est lourd, c'est difficile à manipuler. Mais on peut aussi colmater directement avec de l'argile qu'on peut acheter en poudre, colmater donc des fissures, le mouiller ensuite. Il y a un autre type d'argile qu'on appelle la bentonite qu'on peut commander aussi, qui est une argile très intéressante parce qu'une fois qu'elle est dans l'eau, elle ne se décompose pas, elle ne va pas salir l'eau. Donc une fois qu'on a résolu le problème d'étanchéité et compris comment la mare fait pour être alimentée à nous, il va falloir aussi réfléchir si on a des couches d'argile, si on est fente, essayer de voir un petit peu les arbres qui poussent autour, les arbustes qui poussent autour, qui ont tendance aussi à crever rapidement ces couches d'argile. C'est-à-dire faire un choix, souvent être obligé, si on a un peuplier, parce que si nous avons humide, par exemple, qui coule à côté, abattre le peuplier. Hein, c'est le cas sur beaucoup de lavandes, un peuplier peut boire 500 litres d'eau par jour hein, pendant l'été. On est sûr que sur une petite mare, va vite pomper toute l'eau qu'il y a dedans. Et faire attention aussi ensuite, c'est intéressant d'avoir des plantes, hein, aquatiques, mais l'idéal serait de les poser en pot pour éviter qu'elles se répandent trop rapidement. Et bien sûr, éviter toute introduction d'espèces d'aquarium, de plantes d'aquarium, qui ont tendance à se reproduire très très vite. Apporter de l'oxygène, certes, pendant la journée, mais consommer énormément d'oxygène pendant la nuit aussi, comme toutes les plantes, hein, ce qui fait que le matin, le point d'eau est très très pauvre en oxygène. Donc certaines espèces sont très sensibles à la qualité de l'eau et à l'oxygène dissous dans l'eau aussi. Alors, il y a des espèces comme les laudées, comme les myriophiles, l'espèce qui vient spontanément aussi, c'est la lentille d'eau aussi. Il faut faire vraiment attention, dès qu'on en voit un petit peu, c'est l'éliminer avec des filets, des filets assez fins. Faire attention aux massettes aussi, qui sont très jolies, hein, qui s'étalent spontanément, parce que ça finit par s'étaler très rapidement et crever les couches d'argile aussi. Donc, maîtriser la végétation. C'est très important d'avoir la végétation autochtone. Ça sert aussi aux larves, aux insectes, etc., de refuge, voire de support de reproduction. Mais il ne faut pas se laisser envahir par les plantes aquatiques. Donc, maîtriser ça aussi.
Ces mares et lavandes sont menacées, on vient de le dire, par des espèces invasives qui sont végétales.
Végétales,
mais
tout
qui peuvent être aussi animales.
Et animales. Alors là, animal, qui n'a pas vu de poisson rouge en disant « Oh, c'est super, dans une mare ou une lavogne, cossonarde ou un peu partout, hein, quand on va sur les réseaux, c'est pareil. Hein. » Alors, ça amuse beaucoup les enfants, mais c'est un véritable problème. Hein. Savoir que le poisson rouge, Cardiacus auratus, même s'il ne paraît pas rouge dans l'eau, puisque les jeunes, en fait, quand ils vont éclore, ne retrouvent pas systématiquement cette couleur orangée. Hein. Naturellement, le poisson rouge est une espèce qui a été sélectionnée il y a plus de 1000 ans en Chine, qui a été, pas dire trafiquée, mais qui perd spontanément sa couleur rouge au fil des différentes reproductions. Dans certains bassins, on va trouver des poissons rouges qui sont tout noirs. Ça arrive, mais ça reste du poisson rouge. Et le gros problème, c'est que une femelle de poisson rouge pond 4 à 5 fois par an et pond entre 10 000 et 80 000 œufs. Alors tous ne vont pas arriver à l'âge adulte, hein, mais on va finir par se retrouver avec un point d'eau envahi de poissons et le poisson rouge mange absolument tout ce qui tombe dans l'eau. Ça veut dire qu'on peut se retrouver une mare très très riche en amphibiens, en invertébrés d'abord. C'est une chaîne alimentaire. Hein. Donc on retrouve une mare, un point d'eau qui est très très accueillant pour les amphibiens, pour les invertébrés aquatiques, mais où on ne trouve plus qu'une espèce, c'est le poisson rouge. Tout ce qui tombe à l'eau est systématiquement gobé. C'est un énorme problème. Or, les poissons sont amenés volontairement, la plupart du temps, mais aussi les œufs sont colportés de mare en mare par les oiseaux qui apprécient énormément de venir se laver tous les matins. Autre intérêt d'ailleurs des mares, hein, quand on est ornithologue, c'est d'arriver au petit matin, c'est vraiment magnifique de voir des dizaines d'oiseaux et des dizaines d'espèces souvent venir s'épouiller et se prendre des bains dedans. Donc, en même temps, ils vont transporter des œufs très résistants, hein, les œufs, les alevins aussi très résistants. Un poisson rouge peut vivre, passer un mois dans la vase sans mourir et reprendre de la vigueur dès que l'eau va remonter. Donc, c'est une espèce, une fois qu'elle y est, qui est très, très, très difficile à éliminer. Mais le poisson rouge est vraiment un problème majeur par rapport à la présence et à la biodiversité que peut renfermer une mare, une lavogne ou un bassin, tout simplement. Chez vous aussi, hein, si vous avez des poissons rouges, évitez, si vous avez un aquarium, de les lâcher directement dans un bassin, parce que ça vit vieux, un poisson rouge, ça grandit, hein, ça peut atteindre plus de 30 cm quand il est adulte. Donc, plutôt que s'en débarrasser d'une lavogne, débarrassez-vous-en dans une rivière à eau vive, ça va servir de proie aux truites, aux brochets, et ça va vous rentrer dans une chaîne alimentaire classique. Surtout jamais dans des eaux closes, en fait, de petites dimensions.
Bien, en conclusion, et pour nos auditeurs qui auraient un intérêt particulier pour ces mares et lavognes, comment est-ce qu'on peut les orienter pour de la documentation ou du conseil?
Alors, le parc a édité un dossier technique il y a quelques mois de ça, qu'on peut, je pense, commander au parc, ou en tout cas le récupérer à la maison du parc sur Millau, qui s'intitule « Préserver la biodiversité des mares et des lavognes », qui peut être étendu à tout le département d'ailleurs, hein, puisque les problèmes... Les roches sont pas les mêmes, l'alimentation non plus, les altitudes non plus, mais le principe de l'étanchéité, le principe aussi, il y a des réglementations aussi. On peut pas systématiquement construire une mare où on veut. Hein. Donc tout ça c'est abordé sur le dossier du parc. Vous pouvez aussi contacter le CPE du Rouergue sur des espèces au niveau des plantes, par exemple, préférables d'installer plutôt que d'autres. La LPO aussi peut être en charge de conseil par rapport à ça, suivant où on se trouve dans le département. Actuellement, donc, quiconque désire ou remettre en eau ou aménager une mare peut s'adresser au CPE, au Parc Naturel Régional ou la LPO, dont la base est à Onet-le-Château.
Merci beaucoup, Nicolas Derry.
Je vous en prie.
À une prochaine fois.
Très bien, au revoir.
Un dragon dans mon jardin.
L'émission du CPIE du Rouergue. Rainette méridionale.
Grenouille rousse.
Triton palmé. On leur tire le portrait.
Tu es certainement la plus connue des amphibiens. Facilement reconnaissable à ta couleur vert pomme, tu es...
Je suis la rainette méridionale.
À quoi est-ce que tu ressembles ?
Je suis d'un joli vert pomme, ma peau est lisse et je mesure pas plus de 5 cm. J'ai des pelotes au bout des doigts qui me permettent de monter sur toutes sortes de surfaces. Vous pourrez donc me voir sur vos murs ou même sur vos fenêtres.
Où est-ce que tu vis d'habitude ?
J'apprécie beaucoup les zones ensoleillées, de préférence avec des arbres, car j'aime beaucoup, lors des longues journées d'été, me reposer au soleil sur une branche.
Qu'est-ce que tu manges ?
Je mange des punaises ou des scarabées, j'ai un régime alimentaire très varié.
Est-ce que tu as une particularité hormis ta couleur verte ?
Oui, ma couleur verte est parée d'un trait noir sur mes flancs, qui va de ma joue jusqu'à l'insertion de mes pattes avant. Au contraire de ma cousine, la rainette verte, qui a un trait noir qui va de sa joue jusqu'à ses hanches.
Quand est-ce que l'on peut t'observer ?
On peut m'observer entre mars et juillet, de préférence en avril, et surtout la journée où vous pourrez me voir endormie sur une branche.
À chaque chronique, sa devinette. À chaque chant, son batracien.
On te reconnaît à ton chant puissant que l'on peut entendre à plus d'un kilomètre. Vous avez deviné ? Le portrait de ce batracien clôturera la prochaine chronique du CPIE, diffusée à partir du 21 avril sur nos ondes.
Des amphibiens chez vous ? Identifiez-les avec l'aide du CPIE du Rouergue.
Pour participer à l'opération Un dragon dans mon jardin, visitez le www.cpie-rouergue.com.
Une opération soutenue par l'Europe, la région Midi-Pyrénées, l'État et les agences de l'eau.